que je les poètes à l'Assemblée ce matin à Saint-Jean, mais à Sainte-Marie, puis il me dit, il t'aime bien là-bas, hein? Ben, je lui dis probablement, et puis je me disais que vous étiez assez gentil pour m'inviter pendant, j'oublie combien d'années que je viens régulièrement à toutes les années dans l'autre local, puis même peut-être avant, je m'en rappelle plus. J'ai oublié quand c'est la première fois que je suis venu à Sainte-Marie, mais vous m'invitez année après année, puis je suis reconnaissant que vous le faites, puis je suis toujours heureux. Puis je pense, Christine, aussi, de venir vous visiter dimanche après dimanche, quand ça convient. Donc, la dernière fois, j'ai parlé des premiers versets du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Donc, je vous le dis tout de suite, j'ai fait quatre messages sur le prologue de Jean. Ce matin, je vais voir le deuxième, Dieu voulant, si vous continuez à m'inviter, on devrait passer à travers tout le prologue de Jean, qui est vraiment un texte riche, vraiment riche. Puis je vois même que le mercredi, vous faites l'épître de Jean, et puis vous faites bien parce que Jean a vraiment des choses importantes et riches à dire. J'apprécie, plus j'étudie Jean, plus j'apprécie cet apôtre-là, qu'on dit l'apôtre de l'amour, mais oui, c'est vrai, mais il y avait des choses importantes à dire, puis surtout au début de son évangile. On va lire les 18 versets du prologue, même si je veux m'attarder ce matin seulement sur les versets 6 à 9, mais juste pour mettre le contexte de ce qu'on va dire. Donc, Jean commence son évangile comme ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole était faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Lorsqu'on prend des formations pour faire de la prédication, une des choses qu'ils nous disent, c'est que les premières paroles que vous dites sont importantes. Parce que c'est là que les gens vont dire, c'est intéressant, je veux l'écouter, ou bien ils vont dire, ça semble pas vraiment important. Donc, on nous enseigne, c'est important les premières choses qu'on dit. J'imagine que ceux qui écrivent de la littérature, c'est la même chose, hein? Quand on commence à lire un livre, déjà là, on se fait une idée, ça va-tu être intéressant, pas intéressant, les premières choses qu'on lit. Puis je me suis dit, est-ce que l'apôtre Jean pensait la même chose lorsqu'il écrit son prologue? Je ne pense pas qu'il y avait ce souci-là, mais il y avait vraiment un souci de nous présenter le sujet de tout son évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Puis, en méditant et en étudiant ce prologue-là, je vois que vraiment tout ce que Jean a écrit là, c'est important. C'est vraiment ce qui va être toute la base de tout ce qu'il va écrire dans son évangile. Puis, une des choses que Jean veut absolument qu'on comprenne, c'est qu'il n'écrit pas seulement à propos d'un simple homme. Il écrit au sujet de la parole, il écrit au sujet du Seigneur Jésus, il écrit au sujet du Dieu éternel, du Dieu trinitaire, du Créateur de l'univers, celui qui est la véritable lumière, comme on l'a lu, qui luit dans les ténèbres. Et puis, bien que la parole ait revêtu l'humanité, quand Seigneur Jésus a revêtu notre humanité, il en demeure pas moins qu'il est le Dieu créateur de l'univers. Puis, il ne veut pas qu'on perde ça de vue lorsqu'on lit son évangile. Hein. Il ne veut pas qu'on perde de vue que le Seigneur Jésus, ce n'est pas un simple homme. Il faut lire son évangile en sachant, en gardant constamment à l'esprit que la parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Puis lorsque nous lisons son évangile, lorsque nous méditons son contenu, nous contemplons sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lorsqu'on lit l'évangile, puis qu'on écoute le Seigneur parler, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'on écoute le Seigneur prier, c'est Dieu qui prie. Lorsque le Seigneur Jésus se manifeste, c'est Dieu qui se manifeste. Donc, pour Jean, lorsqu'il introduit son évangile, il veut qu'on ait une saine doctrine de la personne du Seigneur Jésus. Il veut qu'on comprenne bien qui il est, qu'il est le Fils de Dieu. C'est exactement ce qu'il fait dans le prologue. Et puis, comme je vous dis, j'ai fait quatre messages sur le prologue, puis peut le diviser de la manière suivante. Dans les premiers versets, il nous parle de la parole préincarnée, qui il était avant qu'il vienne sur la terre. C'est ce que j'ai prêché la dernière fois que j'étais ici parmi vous. Dans les versets 6 à 9 que je veux m'attarder ce matin, c'est la parole proclamée. Jean-Baptiste qui est venu proclamer cette parole-là. Et puis Dieu voulant, il y a aussi dans les versets 10 à 13 la réception de la parole. Quelle sorte de réception elle a reçue lorsqu'elle est venue sur la terre? Puis on a l'incarnation de la parole qui finalement a pris chair dans les versets 14 à 18. Mais ce matin, c'est 6 à 9 qu'on s'attarde, la proclamation de la parole. Maintenant, j'étais curieux, lorsque je faisais ce message-là, je me suis dit, quelle proportion ont tous les évangiles par rapport au Nouveau Testament? J'ai fait quelque chose de pas trop scientifique, là. J'ai pris deux Bibles que j'avais qui n'ont pas de notes, là, parce que les notes, ça ajoute des pages. Puis là, j'ai compté les pages. Combien de pages il y a à propos des évangiles? Combien de pages il y a à propos des épîtres? Combien de pages il y a lorsqu'on combine les actes et l'Apocalypse? J'ai fait un pourcentage. J'ai découvert que les évangiles, ça représente 45 % de tout le Nouveau Testament. Que les épîtres représentent 35 %, et puis lorsqu'on combine Actes et Apocalypse, 20 %. Fait que presque la moitié de tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est les évangiles. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus importants que les autres? Non, c'est pas ça. Je ne veux pas que personne pense que les évangiles sont plus importants, mais ils ont une importance. Hein. C'est important. Les évangiles sont importants. Les évangiles, puis chaque évangéliste relate la vie du Seigneur Jésus. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font sous différents aspects pour différents auditoires. Bon, comme Matthieu, il s'adresse principalement aux Juifs, il présente le Seigneur Jésus comme le roi Messie que les Juifs attendaient. C'est pour ça que dans son évangile, par exemple, il va mettre une généalogie, puis cette généalogie-là va descendre pour démontrer que le Seigneur Jésus descend du roi David. Le roi, le Messie qu'on attendait. Marc, il vise un auditoire païen, puis principalement les Romains. Puis lui, il va parler du Seigneur Jésus comme le serviteur. On a dans Marc 10, 45, entre autres, que le Seigneur Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Luc s'adresse aussi généralement aux païens, mais d'une manière plus générale, puis il décrit le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme. On lit Luc 9, 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, les âmes des hommes, mais pour les sauver. Puis lui, Jean, il écrit pour fortifier la foi des croyants, puis amener les non-croyants à la foi en Jésus-Christ, dans le Messie. C'est pour ça qu'il témoigne que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, avec un but précis, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean écrit pour qu'on croie que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, puis qu'en croyant en lui, on ait la vie en son nom. Donc, on peut se poser la question, pourquoi quatre évangiles? Mais ça nous donne un portrait complet de qui est le Seigneur Jésus. Pour Matthieu, c'est le souverain, puis pour Marc, c'est le serviteur. Pour Luc, c'est le Fils de l'homme, et pour Jean, c'est le Fils Fils de Dieu. Fait qu'on a un aspect dans chacun des évangiles. Et c'est par les évangiles qu'on connaît le Seigneur Jésus, qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur, qu'il est la tête de l'Église, qu'il est finalement la personne la plus importante pour les croyants. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun chacun des évangélistes? C'est chacun des évangélistes commence le ministère du Seigneur Jésus par la proclamation de Jean-Baptiste qui est venu pour préparer la voie au Sauveur. Puis Jean, il ne fait pas exception à cette règle-là. Il est introduit ici dans le prologue deux fois lorsqu'on a lu dans le prologue, Jean est mentionné, puis il va être l'objet de tout le chapitre, de la fin du chapitre 1 aussi. Donc Jean-Baptiste est l'agent humain qui introduit le ministère du Seigneur Jésus. C'est lui qui donne le coup d'envoi au ministère du Seigneur Jésus. Et ça a toujours été comme ça. Lorsqu'on a voulu remplacer Judas, Judas était parmi les douze, puis a trahi le Seigneur Jésus, puis finalement, Pierre se lève après l'ascension du Seigneur Jésus, Pierre se lève, puis il dit, il faut remplacer Judas pour qu'il y ait encore 12 témoins qui ont toujours été avec le Seigneur Jésus pour servir de témoignage, pour être apôtres avec nous. Il donne les critères suivants. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, on s'associe un témoin pour remplacer Judas. Donc, pour l'Église primitive, le ministère du Seigneur Jésus commençait par le témoignage, puis la prédication, puis le baptême de Jean-Baptiste. Donc, il a un rôle important dans l'histoire comme l'envoyé de Dieu pour préparer le peuple à l'avènement du Seigneur Jésus, leur Messie. Maintenant, il y avait une nécessité du témoignage de Jean-Baptiste, puis Jean Godet, dans son commentaire, l'exprime bien. Donc, je vous le cite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, je commence à citer, assurément, si la parole, en parlant du Seigneur Jésus, était apparue ici-bas dans sa splendeur qui lui est propre, hein, la forme de Dieu que Paul nous parle dans le Philippiens 2,6, l'envoi d'un témoin n'eût pas été nécessaire, mais elle devait paraître enveloppée d'un voile épais. Le Seigneur Jésus est venu en chair, c'est ce que nous dit le verset 14. Donc, c'est ce voile-là épais qui parle, et dans l'état d'aveuglement où le péché avait plongé l'homme. Les ténèbres que parle le verset 5 du prologue qu'on a lu, il ne pouvait la connaître, cette parole-là, qu'à l'aide d'un témoin. Fin de la citation. Donc, ici, ce que Godin nous dit, c'est que Jean-Baptiste est ce témoin-là qui va rendre témoignage pour introduire le Seigneur Jésus dans son ministère, puis dans ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Donc, Jean, contrairement aux autres, ne dit jamais à propos de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Jean, dans son épître, appelle Jean-Baptiste seulement Jean. Et on comprend pourquoi, parce que c'est le seul Jean que lui mentionne dans son, pas dans son épître, là, je me trompe, mais dans son évangile. C'est le Jean lui-même ne se mentionne jamais personnellement par son nom dans ses évangiles. Donc, il n'y a pas besoin de préciser Jean-Baptiste. Donc, on sait que lorsqu'il parle de Jean dans son évangile, c'est toujours Jean-Baptiste. Et puis, je vais faire de même, je ne dirai pas Jean-Baptiste non plus. Puis, lorsque je vais vouloir parler de l'auteur de l'Évangile, je vais dire tout simplement l'apôtre Jean. Donc, dans ce prologue-là, dans le prologue ici, des versets qui nous concernent ce matin, Jean est appelé par Dieu pour attester ou témoigner de la lumière, avertissant qu'il n'est pas lui-même la lumière, puisque la parole est l'authentique lumière. Donc, c'est les quatre aspects que j'aimerais regarder ce matin. Que Jean est appelé, qu'il atteste de ne pas être la lumière, qu'il avertit, excusez, qu'il atteste à propos de la lumière, qu'il avertit qu'il n'est pas lui-même la lumière, mais qui est venu pour nous parler de l'authentique lumière. Et une des choses qu'on va constater aussi dans ce message-là, puis dans ces versets-là, c'est la nature du véritable ministère évangélique. Comment Jean a eu un ministère évangélique quand il est venu annoncer le Messie qui était déjà là parmi eux. Donc, Jean nous apprend aussi des choses en ce qui concerne un authentique ministère évangélique, puis je vais vous faire remarquer ces choses-là à travers les versets de ce matin. Donc, il y a l'appel. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, verset 6. Et l'apôtre n'a pas besoin de donner beaucoup de détails en ce qui concerne Jean, parce que déjà là, dans les autres évangiles, on a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup de détails en ce qui concerne Jean-Baptiste. Donc, lui-même n'a pas besoin d'en donner beaucoup de détails. Bon, Luc nous apprend les circonstances de sa conception, hein. Un ange apparaît à Zacharie, qui est un sacrificateur, lorsqu'il offre le parfum dans le temple, puis lui annonce que sa prière va être exaucée. Sa femme Élisabeth va lui enfanter un fils, puis l'ange lui dit, tu le lui donneras le nom de Jean. Naturellement, il y a de la difficulté à croire ça parce qu'ils sont avancés en âge. Puis il n'y avait pas eu d'enfant, il ne pouvait pas en avoir. On lit dans Luc 1,7, ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et c'est intéressant de constater que des fois, Dieu, et même souvent, Dieu prend des chemins difficiles. Zacharie aurait dû savoir que Dieu avait promis un fils à Abraham. Puis elle, son épouse aussi, Sarah, était stérile. Puis pas seulement Dieu lui a promis un fils, mais il a attendu qu'Abraham ait 100 ans et que son épouse ait 90 ans avant que la promesse arrive. Donc, 10 ans plus tard, si je me rappelle bien, après qu'il lui ait dit ces choses-là. Donc, Dieu annonce la naissance de Jean-Baptiste par Élisabeth et son père Zacharie. Jean, il est envoyé de Dieu. Il est prophétiquement annoncé dans l'Ancien Testament. Marc commence son évangile en nous disant, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Marc 1, les versets 2 et 3. Déjà là, Marc mentionne qu'Isaïe a prophétisé sa venue, puis on sait aussi que Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, dans l'ordre des livres qu'on a dans l'Ancien Testament, a aussi prophétisé la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrivé. Et puis, ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas envoyé de prophète à son peuple, que Dieu n'avait pas parlé à son peuple par un prophète. Et après ces 400 ans de silence-là, Jean apparaît. Il y eut, on a lu, mais ça pourrait aussi être traduit, il parut. Luc, l'historien, le situe, le début de son ministère, à la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque d'Idumée, du territoire de Traconite, puis il y avait Lysiane qui était tétrarque de l'Abilène, ou du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Donc, Luc va préciser le moment précis où est-ce que Jean apparaît. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Pourquoi les environs du Jourdain? Ben, il y avait besoin d'eau. Le baptême de repentance, c'était pas seulement ce qu'il prêchait, mais c'est ce qu'il pratiquait aussi. Les gens se faisaient baptiser pour démontrer leur désir de repentance puis d'être disponible à la venue du Messie. Jean il a eu un ministère fructueux. Beaucoup de gens sont venus l'écouter. Beaucoup de gens se sont fait baptiser par lui. Mais court. Lorsqu'on constate le début du ministère de Jean-Baptiste jusqu'à temps que Hérode le mette à mort, c'est à peine un ministère de 2 ans. Et d'ailleurs, c'est à cause de sa prédication courageuse face à ce Hérode-là, à qui il reprochait d'avoir pris la femme de son frère, donc de commettre l'adultère. C'est à cause de cette prédication courageuse-là que Jean finalement a été mis à mort par Hérode sous l'insistance justement de cette femme-là. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Jean a été fidèle à son appel. Et quel appel! C'est tout un privilège que Jean a eu d'être celui qui a annoncé la venue du Messie, puis qui a préparé le peuple par sa prédication, par son baptême, à recevoir ce Messie-là. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus va dire qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Donc, une des leçons que Jean nous apprend puis nous enseigne, c'est la fidélité. La fidélité malgré les circonstances. Et si on juge le succès du ministère de quelqu'un par sa longévité, hein, qui a eu un long ministère, malheureusement, Jean, il est disqualifié parce qu'il n'y a pas eu un ministère, un long ministère. Mais il a été fidèle à son ministère. Et d'ailleurs, Paul va comprendre aussi l'importance de la fidélité, puis il va rendre grâce à Dieu qui l'a fortifié, puis à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il l'a jugé fidèle en l'établissant dans le ministère. Et ils vont remarquer souvent la fidélité de ses collaborateurs. Il va mentionner la fidélité de ses collaborateurs. Dans l'Épître aux Corinthiens, il va dire que Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, est fidèle dans le Seigneur. À propos de Tychique, il va dire le bien-aimé frère est fidèle ministère dans le Seigneur, dans Éphésiens 6. Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministère de Jésus-Christ, qu'il va écrire dans Colossiens. Onésime, le frère fidèle et bien-aimé dans Colossiens 4. Puis Pierre aussi va rendre témoignage de Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, un Pierre 5. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau témoignage que quelqu'un peut nous faire que de nous dire que nous sommes fidèles. Et d'ailleurs, en pensant à ça, je me suis dit, on est au service aussi d'un Dieu fidèle. Donc, Jean a eu cet appel-là de Dieu à un moment précis de l'histoire dans sa vie pour venir annoncer la venue du Messie. C'est pour ça qu'il était né. Je crois qu'il savait pourquoi il était là. Et puis, à un moment donné, il reçoit cet appel-là. Il est venu quoi? Il est venu attester ou rendre témoignage de la lumière au verset 7. Hein? Il vint. Jean est apparu à un moment précis de l'histoire, au moment choisi par Dieu, puis il s'est manifesté publiquement pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Afin qu'il témoigne au sujet de cette lumière-là, ou en concernant la lumière. Donc, l'autre leçon importante qu'on a, que Jean-Baptiste nous donne, puis peut-être la plus importante qu'il nous donne, c'est que l'objet de tout ministère évangélique, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Tout ministère évangélique n'a qu'un objet, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, il y a un risque, puis on l'a vu malheureusement dans le milieu évangélique, il y a toujours un risque que le ministère devienne plus grand que son objet. Puis Jean apporte cette précision-là parce que lui-même, il n'est pas la lumière. Il veut pas devenir plus grand que que la personne qui est venue introduire, il veut garder sa position de messager, de celui qui prépare la voie du Seigneur. Et puis, je suis sûr qu'il y avait ce risque-là, puis Jean le connaît, ce risque-là. Donc, il ne veut pas que ça arrive. Et pour pas que les gens croient, hein, qu'il est lui-même le Messie, il va donner un avertissement. Il le dit. Il n'était pas la lumière, il parut pour rendre témoignage à la lumière qu'on lit au verset 8. Maintenant, c'est difficile de savoir pourquoi l'apôtre Jean inclut cet avertissement-là dans son prologue. Pourquoi il fait ça? Probablement parce que Jean l'a effectivement dit, il l'a précisé. Mais on sait que Jean-Baptiste a poursuivi son ministère, même après que le Seigneur Jésus ait commencé lui-même son ministère, hein? Jean continue à baptiser, même si le Seigneur Jésus a commencé son ministère. Il aurait pu dire, ben, c'est fini, mais Dieu l'a sûrement dit qu'il devait continuer son ministère. On sait aussi que lors du troisième voyage missionnaire de Paul, il a rencontré des disciples qui avaient reçu seulement le baptême de Jean. Donc, ça s'est poursuivi. Les gens, même après sa mort, ont continué à avoir des disciples. Peut-être que l'apôtre Jean ici veut mettre une précision Puis préciser que Jean n'était seulement que celui qui était venu introduire Seigneur Jésus. Ça peut être des hypothèses. Et c'est quand même important ce que Jean fait ici parce que dans le verset 20, il va remettre les mêmes paroles dans la bouche de Jean. Hein, du chapitre 1, verset 20, on lit, il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Donc, c'est pour ça que j'arrive à la conclusion que Jean veut que son ministère soit caché derrière l'objet de son ministère, la lumière lui-même, le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, les paroles les plus connues de Jean-Baptiste, tout le monde qui lise leur Bible depuis quand même plusieurs années vont le savoir. Hein, Jean va dire, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. D'ailleurs, aussi au verset 15, c'est écrit que Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc, c'est sûr que Jean était plus vieux que le Seigneur Jésus, hein, et né avant le Seigneur Jésus, donc était avant lui. C'est sûr que Jean a commencé à proclamer, hein, que le Messie était là avant que le Messie soit même là. Donc, dans l'ordre chronologique, Jean est avant. Mais dans l'ordre d'importance, il est en deuxième. C'est ce qu'il dit ici. Hein? Il était avant moi, donc sa vraie place est la seule place que le Seigneur Jésus doit avoir dans un ministère chrétien, c'est la première place. Puis Jean le démontre bien, puis c'est ce qu'il veut. Maintenant, si le Seigneur Jésus est le seul objet de tout ministère, le but de tout ministère chrétien ou de tout témoignage évangélique, c'est indiqué à la fin du verset 7, à la fin, afin que tous croient. Et c'était le but de Jean-Baptiste, hein, afin que tous croient par lui, par son témoignage. Et c'est le même but que l'apôtre Jean a dans son évangile que je vous avais fait remarquer lors du premier message, lorsqu'il écrit au verset 20, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et le témoignage de Jean-Baptiste, il prend la place, puis il occupe le reste du chapitre. Je vous en fais un petit survol juste pour vous démontrer, parce que ce qui est intéressant, c'est les aspects qu'on voit dans ces versets-là, c'est exactement ce qu'on voit dans la suite du chapitre. Au verset 19, on a une première section à 28, puis dans cette section-là, du chapitre 1, il va dire qu'il n'est pas le Messie. Au verset 19, on lit, voici le témoignage de Jean lorsqu'on vient à lui pour savoir qui il est. Au verset 20, la première chose qu'il va leur dire à ceux qui sont venus lui poser la question, t'es qui toi? Il affirma qu'il n'était pas le Christ. On veut savoir ce qui il est. Bien, il répond qui il est. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ce qu'on avait prophétisé. C'est ce que Marc nous a dit au début de son évangile. Donc, je suis celui que Dieu a donné pour annoncer la venue du Seigneur Jésus. Je suis celui que Dieu a annoncé par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Dans la suite du chapitre, on voit dans les versets 29 à 34 qu'il est venu rendre témoignage ou attester à la lumière. Verset 32, on lit, Jean rendit ce témoignage. Quel témoignage? Verset 34, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, au verset 29 du même chapitre, on lit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, donc, il rend témoignage, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lorsqu'il fait référence ici à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il fait référence à la prophétie d'Isaïe qu'on a au chapitre 57. Hein? Dans 57 du chapitre du livre du prophète Isaïe, on lit ceci, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc Jean fait référence à cette prophétie-là. Et d'ailleurs, dans le même chapitre d'Isaïe, on lit au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc, lorsque Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est à cette prophétie concernant le Seigneur Jésus qui fait principalement référence. Donc, le seul témoignage chrétien, c'est le suivant. Lorsqu'on revient à cette idée-là, qu'est-ce que nous enseigne Jean à propos d'un vrai ministère chrétien? Bien, le seul témoignage chrétien est le suivant. Le Seigneur Jésus a subi ma condamnation que méritait mon péché. C'est la raison de sa mort sur la croix qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il est donc l'agneau parfait de Dieu qui, en s'offrant lui-même en sacrifice, a pris ma condamnation sur lui afin qu'il ôte mon péché. Maintenant, j'aimerais faire une petite précision, puis vous allez peut-être dire, ben, tu es un petit peu chatouilleux, Guy, mais quand même. Écoutez ma petite précision, puis jugez-la comme vous voulez. Mais pour moi, le témoignage chrétien n'est pas premièrement un témoignage de transformation de vie. Vous savez, il y a plein de personnes qui peuvent témoigner que leur vie a été transformée. Peut-être la place la plus intéressante, c'est d'écouter des témoignages des alcooliques anonymes. Il y a beaucoup de gens chez les alcooliques anonymes qui vont rendre un témoignage puissant que leur vie a été transformée. Ils étaient dans les problèmes, dans l'alcool, puis tout ce que ça. Puis là, ils s'en sont sortis, puis maintenant, ils vivent sans ça. Donc, une vie transformée, ce n'est pas seulement les chrétiens qui peuvent en témoigner. Mais seul le témoignage chrétien proclame que nous pouvons être pardonnés de nos péchés en croyant que le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aucun autre groupe sur cette terre a un message comme ce message-là. Ça, c'est le message évangélique. Que le Seigneur Jésus ôte nos péchés puis qu'on peut être sauvé de la condamnation éternelle. Maintenant, voici comment je vois les choses en résumé. Il est possible d'avoir une vie transformée sans être sauvé, mais en contrepartie, il est impossible d'être sauvé sans avoir une transformation de vie. La transformation de vie est le résultat de ce que le Seigneur Jésus a fait de nous, ses enfants. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu qui maintenant nous habite et nous aide à vivre la vie chrétienne. Donc, la transformation de vie, c'est le résultat du salut. Bon, j'ai fait ma petite précision. Troisième chose qu'on voit dans la suite de l'évangile de Jean, c'est que le témoignage de Jean a pour but que tous croient en lui. Jean, c'est écrit, on l'a lu tout à l'heure, Jean témoigne. Il veut que par son témoignage, les gens croient au Seigneur Jésus. Puis c'est ça qu'on a dans les versets 35 à 51. Du reste du premier chapitre de Jean. Verset 35, si votre Bible est ouverte puis vous êtes là, regardez ce qu'on lit. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. C'est qui ces deux disciples-là? Ben, verset 40, c'est André, frère de Simon, qui est l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Qu'est-ce qu'il fait? Excusez, qu'est-ce qu'il fait? Mais verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et qui lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jean témoigne que le Seigneur Jésus, c'est l'agneau de Dieu. André écoute ça, croit ça, puis André lui-même va aller voir son frère, puis va témoigner de ces choses-là. Donc, Jean avait pour but vraiment que les gens croient que le Seigneur Jésus était le Messie. C'est ce qui arrive. Jean, l'apôtre Jean nous en donne deux exemples. Il y a cet exemple-là. Puis il y a un deuxième témoignage aussi qu'il va donner, c'est celui de Philippe. Hein, Philippe aussi entend ce message-là, puis il va introduire Nathanaël au Seigneur Jésus. Donc, tout le début de l'évangile de Jean, ça l'a. Comme but, Jean a comme but que Jean-Baptiste introduise le ministère du Seigneur Jésus. Je vous en ai fait la démonstration. Donc maintenant, jusqu'à maintenant, on a considéré l'appel de Jean-Baptiste, son attestation ou son témoignage, qu'il rendait témoignage à la lumière, l'avertissement qu'il n'était pas lui-même la lumière, ce qui nous amène au dernier point. Qu'est-ce que cette lumière-là? Quelle est l'authentique lumière? Et c'est ce qu'on lit au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et ce verset-là, il explique avec force la centralité de la personne du Seigneur Jésus dans tout ministère chrétien. Et pas seulement dans tout ministère chrétien, mais pour nous aussi comme croyants. Donc, il était la véritable lumière. Jean, le témoignage de Jean est envers la véritable lumière. Maintenant, la véritable lumière, ce n'est pas l'idée qu'il y a le vrai par rapport au faux. Ce que Jean veut nous dire ici, c'est que cette parole-là, elle est la lumière authentique. Cette lumière-là, elle est authentique puisqu'elle est Dieu. Elle est venue aussi nous divulguer ou nous parler de Dieu. Au verset 18, on l'a lu tout à l'heure, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, cette lumière-là, elle nous éclaire sur Dieu aussi. Dans une longue discussion que Jésus a en Jean 6, il dit à la foule ceci, écoutez bien, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai, puis c'est le même mot ici, l'authentique, le réel pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, en parlant de lui-même, naturellement. Donc, ce n'était pas que ce que Moïse avait donné était un faux pain, mais c'est une représentation de l'authentique, hein, pain qui est le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus, c'est le seul qui donne la vie éternelle, c'est le seul pain de vie qui est descendu du ciel. Il est Dieu incarné. À ses disciples, dans Jean 17, il va dire ceci, « Je suis le vrai cep, l'authentique, le réel, vrai cep, et mon Père est le vigneron. Demeurant en moi, je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc, il ne peut pas avoir de vie spirituelle si on n'est pas attaché au vrai cep, qui est le Seigneur Jésus. C'est une image, une représentation, et que sa vie coule en nous pour qu'on produise du fruit. Et vous savez, le cep, il ne produit pas de fruit, hein? C'est les branches. Mais pour que les branches produisent du fruit, il faut qu'ils soient attachés au cep. Donc, le fruit, c'est la démonstration qu'il y a une vie spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Jésus est la vraie lumière qui éclaire les hommes pour qu'ils croient et aient la vie éternelle. Il est le vrai pain descendu du ciel qui donne sa vie et qui donne la vie éternelle. Puis, il est le vrai cep qui nourrit le croyant dans sa vie spirituelle. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur Jésus dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, et intéressant, c'est le même mot, authentique, réel Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu qui donne la vie éternelle. Maintenant, c'est intéressant parce que Jean atteste avec vigueur qu'il n'est pas la lumière, hein? Que c'est le Seigneur Jésus qui est la lumière, la véritable lumière. Pourtant, le Seigneur Jésus va dire dans Jean 5, verset 35, que Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on conclut de ça? C'est que par son témoignage, Jean était une lumière, mais il était une lumière qui éclairait l'authentique lumière. C'est intéressant, dans mon étude, il y a quelqu'un qui a écrit ceci, Jean témoigne du Christ comme la lune témoigne du soleil. Vous savez, la lune, là, elle n'a pas de lumière. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, la lune? Elle reflète la lumière du soleil. Et ce que l'auteur de cette analogie-là veut nous dire, c'est que Jean, c'était celui qui reflétait par la lumière, l'authentique lumière, le Seigneur Jésus. Donc, il y avait lui-même une lumière, mais ce n'était pas la sienne. C'était celle-là qui reflétait. Dans les Béatitudes, le Seigneur va dire, vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'il dit à propos des croyants. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luisent ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On est comme la lune qui témoigne du soleil. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il ne faut pas que les hommes voient votre lumière et vous glorifient de votre belle nouvelle vie, hein, mais qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Les Juifs attendaient un Messie terrestre. Puis, c'est ce que Jean exprime aussi dans son prologue lorsqu'on lit que la véritable lumière éclaire tous les hommes, comment? En venant dans le monde. Ici, Jean nous introduit déjà l'idée que cette lumière-là, cette parole-là, s'est incarnée. C'est de cette manière-là que Jean l'exprime ici dans ce verset-là, puis il va y venir plus tard dans son prologue. Puis justement, les Juifs attendaient un Messie terrestre. Dans Jean 6 encore, on lit ceci, les gens ayant vu les miracles de Jésus, que Jésus avait fait, c'était la multiplication des pains puis des poissons, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il y avait cette attente-là à l'époque, hein, du Messie qui allait venir dans le monde. Lorsque Jésus parle à Marie, la sœur de Marthe et Lazare, puis il lui parle de sa résurrection, elle va lui répondre, parce que le Seigneur lui dit que son frère va ressusciter, puis ça l'entraîne une discussion au niveau de la résurrection. Elle va lui répondre, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Enfin, le Seigneur Jésus va dire à Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, les Juifs savaient, puis le Seigneur Jésus affirme, puis Jean nous mentionne ici que le Messie allait s'incarner et venir dans le monde. Et c'est comme si le Seigneur, en venant dans le monde, a quitté son habitat naturel, qui est extérieur du monde. Et puis c'est pour ça qu'il dit à Pilate, hein, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. La lumière est venue dans le monde, puis elle est venue dans un monde hostile à cette lumière-là. C'est ce qu'on va constater dans le prochain message. Mais déjà dans Jean 3, le Seigneur va écrire, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car quiconque fait le mal haït la lumière. Et c'est pour ça que le Seigneur va prier en ce qui nous concerne dans Jean 17, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du malin. Et je pense que comme croyant, il faut toujours constamment se rappeler dans quel monde l'on vit. C'est ça que dans sa première épître, Jean va écrire au chapitre 2, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde et le monde passe. Donc, la parole est venue parmi nous, elle est venue dans un monde. Pourquoi? Pour éclairer tout homme. Et qu'est-ce que cette lumière-là éclaire? Ben, je relis un peu les versets que j'ai lus tout à l'heure dans Jean 3. Hein. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Hein. La lumière dévoile, la lumière montre. Et c'est ça qu'elle est venue montrer. Le Seigneur Jésus est venu dévoiler le cœur de l'homme. Et l'homme, en général, préfère les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir nos vraies œuvres. On ne veut pas voir notre vrai cœur mauvais. Mais c'est ce qu'on a besoin de voir pour être capable de se tourner vers le Seigneur et lui dire, ben, viens me sauver. Donc, on a passé ces versets-là, ces enseignements-là, mais j'aimerais terminer juste en donnant trois points en ce qui concerne la nature d'un ministère évangélique. Juste faire un petit résumé de ce que j'ai dit au niveau de cet aspect-là, parce que je pense que c'est important. Premier point, c'est que la centralité du message évangélique, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Ça, c'est la centralité du message évangélique. La nécessité du message évangélique, c'est parce que le Seigneur a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça, c'est la nécessité, c'est que les hommes passent des ténèbres à la lumière. Et finalement, la fidélité au message évangélique, ben, c'est l'exemple de Jean. C'est ce qu'on a vu ce matin. Jean était fidèle à son appel. et est venu rendre témoignage à la lumière. Il a paru pour rendre, qu'on a lu au verset 8, témoignage à la lumière. On va prier. Seigneur, merci pour ces quelques versets-là. Merci pour les vérités importantes qu'on a vues ce matin. On est particulièrement étonné puis encouragé de l'exemple de Jean. Comment il s'est mis derrière le Seigneur Jésus, comment il a vu sa vraie position, comment il a accompli cette mission-là que Dieu lui avait donnée. D'ailleurs, la raison pour laquelle il est né. Déjà, à ses parents, Dieu avait prophétisé qui était cet enfant-là et ce qu'il allait faire. Merci que malgré que son témoignage puis son ministère a été court, il a été des plus importants. Et Seigneur, aide-nous à bien évaluer qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Et puis, c'est quoi qui nous motive? Que notre vraie motivation soit d'être des lumières dans ce monde des ténèbres, puis qu'on puisse simplement être comme la lune qui reflète le soleil. Amen.
Amen.